Merci Michel pour ce discours très offensif. Donc je voudrais dire quelques mots sur l'organisation scientifique de cette conférence et sur le déroulement des deux journées. Vous avez sans doute remarqué que parmi les 10 communications qui sont prévues dans ces deux journées, 3 viennent de la francophonie avec Marianne Freinet, Marc Romainville de Belgique, Jean-François Desbiens du Québec, et les 7 autres sont produites par des chercheurs français. Donc c'est une façon de dire que finalement il existe en France une recherche sur l'enseignement supérieur, ou plus précisément une recherche sur les questions d'enseignement et d'apprentissage. Peut-être qu'elle est plus présente et plus active qu'on l'imagine habituellement. Et ce décalage entre la perception qu'on peut avoir donc, des recherches sur l'enseignement supérieur faites en France et la réalité de la production de cette recherche, finalement, signale un problème de visibilité de cette recherche. Alors, on peut s'interroger sur l'origine de ce manque de visibilité. Probablement, y a-t-il plusieurs facteurs. Citons-en quelques-uns. Bon, l'un d'entre eux, c'est sans doute que le vocable pédagogie universitaire en France est peu utilisé. Alors bien sûr, il est utilisé dans le langage courant, ça ne fait pas de doute. Mais au sein des communautés de recherche et des laboratoires de recherche, il est controversé. Peut-on définir un champ de recherche qui s'appelle la pédagogie universitaire en France? En tout cas, ça ne fait pas l'unanimité. Si bien que les recherches qui s'affichent comme étant des recherches en pédagogie universitaire, finalement, ne sont pas si nombreuses que ça. Mais quoi qu'il en soit du vocabulaire utilisé, pédagogie universitaire ou pas, ces recherches existent, elles travaillent sur des objets bien précis, et ces recherches sont faites dans des disciplines différentes. Et c'est sans doute là un deuxième obstacle. Bien sûr, elles proviennent des sciences de l'éducation, c'est une évidence, mais les sciences de l'éducation n'ont pas le monopole de la production de ces recherches. Elles proviennent aussi de la sociologie, de la psychologie, des technologies de l'information et de la communication, de l'économie. Autrement dit, elles sont réparties dans des champs disciplinaires différents, et essayer d'avoir une vision assez complète et d'ensemble de toutes ces recherches, pardon, supposerait donc de se promener d'un champ disciplinaire à l'autre, ce qui n'est pas de circuler d'un champ disciplinaire à l'autre, ce qui n'est pas aisé. Enfin, probablement un troisième obstacle, c'est que ces recherches sont souvent faites par des chercheurs isolés, voire des binômes, mais rarement des équipes. Et ces chercheurs plutôt isolés appartiennent à des équipes dont la raison sociale, en quelque sorte, n'est pas essentiellement l'enseignement supérieur. Donc ce qui rend l'identification de ces recherches encore un peu plus difficile. Il est très rare qu'en France, nous ayons des équipes qui soient structurées autour de l'enseignement supérieur. On peut citer une des rares exceptions, donc ainsi l'équipe pratique et politique d'enseignement supérieur du laboratoire ECP à Lyon. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui soient vraiment organisées autour de l'enseignement supérieur. Donc finalement, un des enjeux de cette conférence de consensus, ça a déjà été dit, c'est donc de rendre visible la recherche qui est faite sur les questions d'enseignement supérieur. Pas toutes les questions d'enseignement supérieur, nous ne parlerons pas ici des aspects organisationnels et des politiques, bien que ce soit en toile de fond de nos échanges, nous parlerons donc essentiellement des questions d'enseignement et d'apprentissage, de les rendre visibles, et au-delà du cas spécifiquement français, de rendre visibles toutes ces recherches-là. Ça, c'est un premier enjeu, et finalement, il est assez facile à atteindre. Mais il y en a un autre qui est plus ambitieux, et pour cette raison aussi plus risqué, qui est, ça a été évoqué donc, tout à l'heure également dans la première intervention, qui est de favoriser les interactions entre les chercheurs travaillant sur l'enseignement supérieur. De favoriser les interactions, les échanges, mais au-delà de ça, finalement, d'essayer de créer des réseaux plus ou moins formels, et de la création de ces réseaux pourraient naître de nouvelles recherches sur les questions d'enseignement et d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est aussi l'ambition de l'ensemble du séminaire, et pas simplement de cette conférence, de permettre de créer ces réseaux et de dynamiser en quelque sorte la recherche sur l'enseignement supérieur en permettant également de la rendre plus visible. Alors une des pièces maîtresses pour tenter cette dynamisation, c'est le rapport de recherche, enfin le rapport de synthèse, non pas de recherche, que fera le jury. Michel Lusseau en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas tellement y revenir. Mais la tâche du jury est donc d'essayer d'articuler les différentes communications qui vont être faites au cours de ces deux journées. C'est une tâche qui est évidemment ambitieuse, exigeante, car si ces 10 communications, bien évidemment, vont traiter de la question de la réussite et de l'échec de l'enseignement supérieur, elles vont toutes les traiter, à partir d'entrées différentes, donc elles vont toutes développer des plans différents. Cette articulation donc est à construire, et c'est la tâche du jury. Voilà. Alors, le jury interviendra de deux façons. Il posera des questions à l'issue des interventions et il interviendra à la fin de la conférence pour nous livrer une première synthèse provisoire à chaud. Le mode d'intervention le mode de fonctionnement adopté par le jury, présidé par Emmanuel Hanotte, professeur à l'Université de Rouen, a été de choisir de ne poser qu'une question à l'issue de chaque intervention. Donc un membre différent à chaque fois du jury posera une question. Il y aura le temps, bien entendu, de développer la question avant de la poser, hein, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'à l'issue de chacune des interventions, nous aurons un temps important donc, d'échange entre un quart d'heure et 20 minutes, disons un quart d'heure d'échange. Donc le protocole sera toujours le même. La parole sera d'abord donnée au jury et ensuite nous ferons circuler des micros pour que la salle puisse intervenir. Mais ce n'est pas le seul mode d'intervention que possible, nous en avons deux autres. Vous avez dans votre pochette, vous avez des petits papiers comme cela. Donc ces petits papiers servent à écrire des questions que vous pouvez déposer dans une urne qui se trouve près du vestiaire, je crois, dans le hall. Ces questions donc seront collationnées et remises ensuite au jury. Par ailleurs, vous avez également un site, un document collaboratif qui a été ouvert. L'adresse figure sur une des présentations donc, qui figure dans votre pochette. Et ça vous permet donc de faire remonter des questions, de faire des commentaires. Nous y aurons accès en temps réel, Geneviève et moi, pendant la conférence, et éventuellement nous pourrons nous y référer pour éventuellement poser quelques questions aux intervenants. Même si, loin s'en faut, toutes les questions évidemment qui seront posées par ce document collaboratif et évidemment les questions qui remonteront sous forme papier ne seront pas transmises aux intervenants, et donc les intervenants ne pourront pas y répondre. Ces questions sont néanmoins importantes, car comme je l'ai dit tout à l'heure, elles seront remises au jury, et c'est une pièce importante également pour la synthèse que le jury va faire, car ça lui permet d'identifier les types de questions que l'on pose aujourd'hui, que l'on se pose aujourd'hui sur la recherche dans l'enseignement supérieur. Vous avez également dans votre pochette, ce qui a été fait allusion, deux documents qui sont des ressources supplémentaires par rapport aux communications. Donc ces deux documents sont l'un, donc un document fait par le service de veille de l'IFE, plus particulièrement donc Laure Andrézy et Florence Sibut, chargées d'études au service de veille de l'IFE. L'autre document est un document, est une note de synthèse provenant d'une enquête faite par Didier Paclin, professeur d'information et communication à l'Université de Bordeaux. Ce sont donc des ressources complémentaires. Ces deux documents ont été élaborés de manière tout à fait indépendante. Et il est particulièrement frappant de voir combien ils partagent de points communs dans la mesure où tous deux se centrent sur les étudiants et cherchent à répondre à la question finalement, mais qui sont les étudiants aujourd'hui, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et il y a donc beaucoup de convergences entre ces deux documents, même s'ils ont été faits à partir de méthodologies différentes. Le document de Didier Paclin repose sur une enquête portant sur environ 4000 étudiants. Le document du service de veille de l'IFE est une problématisation, une revue de questions problématisées, en fait, hein, à partir de la littérature scientifique. Et ces deux documents, au fond, essayent de prendre en compte ce que nos collègues anglo-saxons appellent l'expérience étudiante, un vocable qui est peu utilisé en France, hein, mais l'expérience étudiante, c'est l'idée que fréquenter l'université, eh bien, c'est pas simplement être confronté à de nouveaux modes de savoir et à de nouveaux modes d'apprentissage. Aller à l'université ou en grande école, hein, peu importe, c'est par exemple construire de nouveaux réseaux sociaux, c'est adopter un nouveau mode de vie, apprendre à vivre seul ou en colocation, et parfois à vivre dans une ville, dans un environnement qui est très loin de l'environnement familier donc de l'étudiant. Et tous ces facteurs, bien entendu, sont de nature à peser sur la construction des parcours de réussite et d'échec. Cette conférence est donc le premier maillon d'un ensemble de conférences. le tout formant un séminaire de consensus. La prochaine, comme Michel Lussault l'a dit, aura lieu le 30-31 mai à l'ENS de Lyon et portera sur la construction du programme de formation. Le comité scientifique a déjà proposé des thèmes pour les prochaines conférences. La troisième conférence, qui aurait lieu à cette même date en 2016, porterait sur les pratiques de formation à la pédagogie, enfin la formation à la pédagogie, pardon, des enseignants du supérieur. Et la dernière conférence, qui aurait lieu donc au premier semestre 2017, serait probablement autour de la question formation tout au long de la vie et enseignement supérieur. Donc, des conférences tous les 6 mois. Bien entendu, il y aura un travail de valorisation de ces travaux qui est à faire. Un certain nombre d'éléments vont être mis en ligne, mais nous réfléchissons actuellement à des publications plus ambitieuses, en particulier peut-être des ouvrages collectifs qui pourraient être tirés de chacune de ces conférences.
J'ajoute un mot pour dire le sens de ma présence ici à la table, sans prise de parole particulière, puisque nous en avons convenu ensemble. Mais dire que je représente en fait la mission pédagogie numérique pour l'enseignement supérieur, et si je suis là, c'est en fait porteuse aussi du travail qui a été fait avec cette équipe. J'y suis parce que j'ai en charge le suivi de la convention donc, qui a été évoquée entre l'IFE et la DGCIP, et donc je participerai à l'animation avec Laurent, mais bien au-delà de ça, j'aurai la grande préoccupation de recueillir les productions, tout ce qui va être échangé, pour les mettre en relation avec l'ensemble des autres activités et des autres actions qu'impulse la mission pédagogie numérique dans l'enseignement supérieur, et faire en sorte qu'elles se traduisent. On a parlé de mise en visibilité des productions de recherche pour arriver à des préconisations, des recommandations. Je pense que là, on arrive sur le terrain où c'est au ministère de prendre le relais, et donc ces recommandations, elles seront travaillées à partir de vos productions.
Merci pour ces précisions, Geneviève. Entrons dans le vif du sujet et passons donc aux premières interventions.